Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage. 1,
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Jeudi 11 juin 2026, il est 6h avant minuit. Vous avez fait le choix d'écouter l'émission d'info locale de Syllab et je crois que vous avez très très bien fait. Tout de suite, c'est le flash de Léonore.
Coup d'envoi ce soir pour la Coupe du Monde 2026, mais pas pour tout le monde. L'arbitre somalien Omar Hartan s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain. Il avait pourtant été sélectionné pour devenir le premier arbitre somalien à officier lors d'une Coupe du Monde. Malgré un visa valide, il a été contraint de retourner à Mogadiscio après 11 heures d'interrogatoire et plusieurs heures de rétention. Pour beaucoup, Omar Hartan, désigné meilleur arbitre africain en 2025, incarne désormais le contre-coup de la politique de Donald Trump sur le mondial à venir. Depuis son retour de la Maison-Blanche, Donald Trump n'a eu de cesse de critiquer la Somalie, qualifiant même le pays de pourri. La FIFA s'est contentée d'accepter la décision américaine. Pour la première fois, deux navires chinois ont pénétré dans les eaux entourant l'île d'Itu Aba, contrôlée par Taïwan. Ils ont été expulsés au bout de 15 minutes par les gardes-côtes taïwanais. Ces derniers ont exprimé leur condamnation la plus ferme de cet incident. Selon le gouvernement taïwanais, une série d'activités chinoises dans les eaux entourant Taïwan et les îles sous son contrôle avait déjà eu lieu plus tôt. Cette intrusion chinoise fait suite au pourparlers entre le Japon et les Philippines, visant à délimiter une frontière maritime entre les eaux concernées. La Chine, qui revendique le contrôle exclusif de ces eaux, a qualifié ces pourparlers d'illégaux. Le secteur automobile est en crise. Le ministre de l'Industrie a réuni ses professionnels ainsi que les ONG de défense de l'environnement. Le but, déterminer si oui ou non, les dispositifs fiscaux encourageant l'achat de voitures électriques contribuent à redynamiser le marché. Entre ONG et représentants de la filière automobile, difficile de trouver un terrain d'entente. Le flou entourant le projet de loi de finances 2027 n'aide pas à mettre en place de nouvelles régulations. Un seul point fait l'unanimité, tous et toutes souhaitent le retour d'une prime à la conversion pour l'achat de voitures électriques neuves et d'occasion. L'aide sous forme de bonus pourrait être financée par les certificats d'économie d'énergie et les recettes issues des malus. Faut-il mettre en place une castration chimique pour les pédocriminels ? Bruno Retailleau, président des Républicains, se dit favorable. C'est une déclaration passée un peu inaperçue la semaine dernière, mais qui fait écho à un débat provoqué après le meurtre de Liana, 11 ans, dans le Gers. Aïssa, tu nous expliques ?
Au micro de CNews et de Europe 1, Bruno Retailleau affirme ceci.
Moi je suis, je le dis, je vais choquer peut-être, mais je suis favorable à la castration chimique. Depuis une vingtaine d'années, la castration chimique est possible. Eh bien, moi, je pense que le juge, évidemment, sous le contrôle du juge, le juge devrait pouvoir...
Mais avec l'accord de l'agresseur ou sans l'accord ?
Sans l'accord de l'agresseur.
Sans consentement.
Sans consentement. Okay.
Pour les sénateurs présidents des Républicains, je cite, « Il faut traiter le mal à partir de la racine pour protéger les victimes ». Invité hier sur le plateau de BFM, Olivier Faure, président du Parti Socialiste, s'est aussi exprimé sur le sujet. Il a fait valoir de son côté, je cite, que d'autres possibilités existent, comme des bracelets anti-rapprochement. Pareil pour Marine Tondelier du groupe écologiste. Concernant la castration chimique des pédocriminels, elle affirme ne pas croire en l'efficacité de cette mesure, en tout cas si elle est appliquée seule. Pour elle, que le traitement soit, je cite, à la demande de la personne ou obligatoire sans traitement psychologique ou accompagnement, cela ne marche pas. En Allemagne comme dans d'autres pays européens, la castration chimique est possible pour les pédocriminels, mais pour certains et certaines spécialistes, cela ne résoudra pas le problème originel, la violence. Et c'est d'ailleurs l'avis de Georges Parapstapatis, il me semble. Pardon pour la protection. L'avocat pénaliste au micro de France Inter il y a deux jours, selon lui, il n'y a pas moins de récidives dans ces pays qui le rendent obligatoire.
Mais Stéba, c'est un vieux serpent de mer, n'est-ce pas, Aïssa ?
Ben oui, Léonore, en 2007, 2009, 2018, 2025, etc., à chaque drame, le débat refait surface. La castration chimique est-elle la solution pour ces affaires, souvent provoquées par des récidivistes ? En 2018, l'idée est portée par la droite républicaine de Laurent Wauquiez. Elle surgit dans le débat public quelques jours après le viol et le meurtre d'Angélique, une adolescente de 13 ans, par un homme déjà condamné pour viol. Le politicien reçoit alors le soutien de Ségolène Royal, son opposante sur l'échiquier politique.
Mais attends, je t'arrête, mais c'est quoi exactement la castration chimique ?
Eh bien, ça n'a rien à voir avec une opération, Léonore. La castration chimique, c'est un traitement médical qui a pour objectif de diminuer les pulsions d'un délinquant sexuel. Tu sais depuis combien de temps ça existe ?
Je sais pas, 10 ans peut-être ?
Et non, depuis 20 ans c'est possible, et c'est deux modes d'administration qui existent, une injection ou des comprimés. Aujourd'hui, le traitement y concerne ceux punis par des crimes, mais aussi des personnes hors du cadre judiciaire. Un tribunal ne peut pas ordonner une castration chimique, c'est avant tout un traitement médical. Une ou un juge peut formuler une obligation de soins, mais seul le ou la médecin traitant peut prescrire ce soin avec le consentement de la personne. En revanche, en ce qui concerne une personne condamnée par la justice, leur refus peut entraîner des sanctions.
Merci Aïssa, et cette affaire relève aussi d'autres débats portés par les hommes et les femmes politiques sur la curabilité des pédocriminels et leur réinsertion dans la société. France Inter et France Info sanctionnés pour une sous-représentation du Rassemblement National. L'ARCOM leur reproche un manque d'équilibre et de pluralisme dans les temps de parole entre janvier et mars. Près de 60% du temps de parole accordé aux représentants du Rassemblement National sur France Inter a été diffusé entre minuit et 5h59. Cette proportion dépasse 70% sur France Info, écrit le régulateur. A l'inverse, le RN est sous-représenté entre 6h et 23h59. Une mise en demeure a donc été adressée à Radio France. Cet avertissement constitue l'échelon précédent les sanctions financières prévues par l'ARCOM. Selon l'ANSES, 23 à 27% des enfants en France dépassent la dose journalière tolérable de cadmium, soit 0,35 microgrammes par kilogramme selon son poids. L'organisme estime que l'exposition à ce métal lourd est cancérigène. Avec AESA, on a demandé à Khalil Hanna, enseignant-chercheur en chimie de l'environnement à l'université de Rennes, pourquoi les plus jeunes sont autant exposés et quelles sont les conséquences sur leur santé.
On retrouve principalement le cadmium dans les plantes cultivées comme le riz, le blé. Par exemple, les céréales du petit déjeuner, les barres céréalières, les biscuits salés ou sucrés, pommes de terre, des légumes, les pâtes, le pain, la farine, les croissants, les pains au chocolat. Donc comme ça contamine principalement la base de tout ce qu'on mange principalement au petit déjeuner, forcément, ils sont surexposés que la population générale. Il n'y a pas de débat sur la question. Il est toxique, reprotoxique, c'est-à-dire toxique pour la reproduction. Donc il s'accumule dans l'organisme, principalement dans les reins et les os, et s'élimine très lentement. Les enfants qui consomment aujourd'hui, ils peuvent développer des maladies à 30 ans, 40 ans. Il peut provoquer, par exemple, des effets sanitaires du type atteinte rénale chronique, fragilisation osseuse, et puis aussi, il peut provoquer, en tout cas, il peut augmenter le risque de certains cancers. Ça, c'est pour la population générale. En fait, on parle des enfants qui sont plus exposés, parce que en fait, le corps d'un enfant en pleine croissance a justement un besoin très important en minéraux. Donc, le corps, il va assimiler plein de choses. Il va assimiler le fer, le zinc, ce qui est bien pour la santé. Mais en même temps, il va assimiler aussi le cadmium. Le cadmium n'est pas du tout, en fait, un élément essentiel pour l'organisme comme le fer et le zinc. Le cadmium, c'est toxique, reprotoxique aussi. Donc, il peut être assimilé rapidement par la corps d'un enfant et provoquer aussi des effets toxiques, c'est-à-dire des effets sanitaires du type cancer ou d'insuffisance rénale. Un élément important, c'est que pour les personnes carencées en fer, le cadmium peut jouer ce qu'on appelle l'as de déguisement et peut prendre la place du fer. Donc pour les personnes vulnérables, les enfants, les femmes enceintes, sont plus exposées parce que le cadmium peut prendre la place du fer et peut être beaucoup plus assimilé que pour, par exemple, la population en général.
Récemment, le sujet s'est invité au centre des débats à l'Assemblée nationale. Un texte porté par les députés du groupe écologiste Benoît Biteau et Clémentine Autain a été adopté à 144 voix contre 22 au début du mois. Il prévoit une réduction dans les engrais phosphatés de ce métal lourd toxique. On n'insulte pas un policier ou un gendarme. Le préfet de Bretagne est revenu ce matin sur la manifestation de la semaine dernière en faveur des free parties. Il condamne les violences envers les forces de l'ordre perpétrées à Rennes lors de la marche de samedi dernier. Un groupe d'une dizaine de jeunes avait tenté de pénétrer dans la préfecture dans la soirée suivant la manifestation. La police avait répondu par des gaz lacrymogènes aux jets de projectiles qu'elle avait reçus. 10 policiers ont été légèrement blessés. 8 jeunes âgés de 18 à 25 ans ont été interpellés et placés en garde à vue. Pour le préfet de Bretagne, Franck Robin, cet épisode, je cite, témoigne de la montée inacceptable de la violence à l'encontre des forces de l'ordre. à passer. C'est la troisième édition du festival de l'association dans le Gosier. Cette année, le Salon du Vivant se tiendra dans les Champignières, dans la Champignonnière, pardon, les 13 et 14 juin. Au programme, guinguettes, jeux pour enfants, dégustation de vins nature et produits locaux, le tout dans une ambiance conviviale. L'entrée est libre tout le week-end. Pour les joueurs et joueuses, rendez-vous samedi soir dès 19h pour un bingo, suivi d'un concert du quatuor rock Garage Les Bop à partir de 21h30. Le programme complet du week-end est à retrouver sur l'Instagram @danslegosier ou sur le site de la ville de Passé.
Un flash signé, Léonore, merci à toi.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
C'est l'heure de l'interview. Ce soir, c'est avec toi, Daniel. On t'écoute.
Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous accueillons au Radio Syllabe Madame Hélène Audrain, responsable de Pôle Action Culturelle au Musée de Bretagne. Sa présence est liée à l'inauguration d'une nouvelle exposition consacrée à l'affaire Dreyfus à Champs Libres. J'espère que notre discussion apportera des informations intéressantes aux personnes intéressées par la vie culturelle rennaise. Bonjour.
Bonjour.
Une première question est liée à l'organisation de cette exposition. Les spécialistes savent qu'organiser une exposition est une activité complexe. Or, le public ne connaît que le produit fini sans se rendre compte du travail considérable qu'il représente. Pourriez-vous nous parler de l'organisation de cette exposition? Comment a-t-elle débuté? Combien de temps a duré la réalisation de ce projet?
Oui, effectivement, la conception d'une exposition est un processus très long. On a commencé il y a un peu plus de 2 ans avec différentes étapes. D'abord, se poser la question de pourquoi est-ce qu'on veut faire une nouvelle exposition. Ensuite, on commence à travailler les contenus, un scénario de visite, qu'est-ce qu'on a envie en fait qui ressorte de cette exposition. Et pour la construire, on associe aussi des personnes extérieures, en fait, qu'on appelle conseil scientifique, et qui vont se réunir à des moments clés de l'exposition pour valider l'avancée du projet. Une fois que toute la conception, on va dire, scientifique du projet est réalisée, là, on va lancer un appel d'offres pour recruter une équipe scénographique qui, elle, va être en charge de mettre en volume, finalement, l'exposition.
Et voilà, une très grande équipe. Pouviez-nous dire combien de professionnels ont été impliqués? Quels sont les professionnels qui ont été impliqués?
Oui, alors du coup, effectivement, dans les équipes du Musée de Bretagne et des Champs Libres, on a beaucoup de collègues qui ont travaillé autour de l'exposition. On a bien sûr une commissaire d'exposition qui est Laurence Prodhomme, qui est conservatrice au Musée de Bretagne et spécialiste du fond de nos collections, en fait du fond Dreyfus au musée. Une chargée de projet, une médiatrice qui est vraiment référente de l'exposition pour concevoir tous les dispositifs pour les publics, l'équipe de la régie, les équipes techniques pour encadrer les œuvres, faire les soclages, la communication, l'action culturelle. Voilà, en fait, c'est vraiment un projet qui réunit tous les corps de métier qui composent les équipes des Champs Libres. Et ensuite, donc, je vous parlais du conseil scientifique. Ce conseil scientifique, il a été composé d'historiens et d'historiennes spécialistes de l'affaire Dreyfus, mais également de trois descendants d'Alfred et Lucie Dreyfus. Hein, pour nous, c'était vraiment très important d'associer la famille à ce projet pour qu'ils puissent valider vraiment toutes les étapes de la conception de cette nouvelle exposition. Donc, il y avait Charles Dreyfus, qui est le petit-fils d'Alfred et Lucie Dreyfus, hein, qui a connu ses grands-parents. Et Jean-Marc Perle et Michel Dreyfus, qui eux sont des arrière-petits-enfants.
Et j'ai vu que les représentants de la famille vont participer à l'inauguration de cette exposition. L'inauguration qui sera en 2 étapes avant.
Oui, et en fait, effectivement, le 19 juin, on organise en fait différents temps, notamment pour la famille Dreyfus élargie. Hein, on a convié tous les descendants dont on avait connaissance, plus les partenaires de l'exposition, avec différents temps, des visites en avant-première pour découvrir l'exposition, une visite presse, hein, comme c'est habituel, et puis l'inauguration le soir pour les partenaires de l'exposition. Et ensuite, l'exposition, elle ouvre le 20 juin au grand public, où là, on a 2 journées avec différentes animations.
Donc, depuis 20 juin, tout le monde pourra voir cette exposition. À quel public s'adresse cette exposition? Aux étudiants, aux adultes?
Alors, l'exposition, elle s'adresse bien sûr à tout le monde, mais effectivement, on a eu une attention particulière pour les adolescents et les jeunes adultes. Donc, c'est quand même un sujet assez complexe. Donc, on va dire que l'exposition, elle est accessible à partir de 12-13 ans. En tout cas, nous, on a conçu des dispositifs de médiation dans l'exposition pour ces publics-là, principalement autour des enjeux d'éducation aux médias et à l'information. Et on a conçu avec des spécialistes de conception d'escape game un parcours enquête, donc qui permet en fait de jouer en équipe entre 2 et 6 joueurs. 4 équipes peuvent jouer en même temps dans l'exposition. Et l'idée, c'est d'appréhender le contenu de l'exposition par le jeu, mais toujours en allant chercher des détails dans les objets, donc en apprenant sur l'affaire, mais d'une façon un peu plus ludique.
Oui, le ludique, c'est toujours présent dans les expositions de champs libres.
Et puis, bien sûr, après, pardon, on aura une offre pour les scolaires, parce que voilà, c'est un enjeu très, très important hein, voilà, sur les enjeux d'éducation aux médias et à l'information, les enjeux de racisme, d'antisémitisme. Voilà, c'est des choses qui touchent encore actuellement notre société. Donc, c'est important que les scolaires puissent aussi profiter de cette offre pour découvrir le contexte de l'époque.
L'éducation, un autre rôle de musée, l'éducation de public, c'est ça la notre question. À l'heure où les actes antisémites et les attaques contre les étrangers ont augmenté proportionnellement en France, et pas juste en France, dans toute l'Europe. Avez-vous envisagé de collaborer avec d'autres musées pour montrer une exposition itinérante qui mettrait en lumière les conséquences néfastes d'une telle mentalité? J'ai lu qu'en 1978, c'était une telle exposition consacrée à Dreyfus qui a été itinérée en France. Presque 10 ans, si je me souviens bien.
Alors, pour l'instant, on n'a pas de projet. On a déjà une exposition itinérante, hein, mais qui est sous forme d'exposition panneau, où voilà, on raconte l'affaire Dreyfus. Peut-être que ça viendra, en fait, effectivement, d'actualiser cette exposition itinérante et de la proposer peut-être un peu plus ludique et renouvelée au niveau du graphisme et des contenus. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu. On en a déjà discuté avec la Ligue des droits de l'homme, par exemple, parce qu'eux seraient très intéressés d'avoir ce genre de dispositif à mettre à disposition de leur section locale. Donc voilà, en tout cas, ce n'est pas exclu. Mais là, c'est vrai que notre priorité, c'était vraiment l'exposition physique au champ libre. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas prévu, mais c'est pas inenvisageable.
Oui, je crois que ce sera bien de le faire accessible à tout le monde, au public français. Et, une exposition consacrée à l'affaire Dreyfus se tient au champ libre depuis 2006. Ce projet peut être considéré comme une nouvelle exposition ou une réorganisation de l'ancienne exposition.
C'est totalement un nouveau projet, en fait. C'est une nouvelle exposition. L'exposition de 2006, elle retraçait l'histoire de l'affaire Dreyfus dans son entièreté. La scénographie était quand même... Alors, c'était un parti pris, hein, c'était assez sombre, assez rouge. On voulait refléter une ambiance carcérale. Donc, c'était pas facile, notamment en termes de médiation, par exemple, pour accueillir des groupes, parce que la circulation était pas aisée. Donc là, c'est vraiment un nouveau projet d'exposition dans une nouvelle salle, hein. D'ailleurs, elle sera pas placée au même endroit, parce qu'avant, la salle dédiée à l'affaire Dreyfus n'était pas bien située en fait, dans le parcours de visite des publics. Et donc là, voilà, c'est une toute nouvelle exposition qui se recentre sur 3 enjeux principaux. Alfred Dreyfus, en fait, remettre l'homme derrière l'affaire, parce qu'on parle toujours de l'affaire Dreyfus, mais en fait, ça a impacté un homme, une famille, des proches. Et donc, du coup, on va retrouver, par exemple, tout au long de l'exposition, des citations qui viennent de son ouvrage 5 ans de ma vie, où il raconte sa détention à l'île du diable En Nouvelle-Calédonie, à Cayenne. Et voilà, donc ça, c'était le premier enjeu, en fait, vraiment, qui était Dreyfus. Le deuxième enjeu, c'est de poser le contexte du procès de Rennes. Donc, on revient vraiment sur qu'est-ce qu'a été ce procès de Rennes dans l'affaire Dreyfus, comment il s'est déroulé. Et puis, le dernier enjeu, c'est le rôle de la presse à l'époque.
Oui, le rôle de la presse qui a changé presque tout dans cette affaire. Il sera intéressant de connaître les nouveautés que cette exposition apporte. Quelles sont les pièces de résistance que les visiteurs pourront y découvrir dans cette exposition, nouvelle exposition?
Alors effectivement, donc il y a bien sûr des objets qui étaient déjà dans l'autre exposition qu'on va retrouver, comme des marionnettes qu'on trouvait, ou alors encore des objets antisémites, hein, des cannes par exemple avec des pommeaux en caricature. C'était des objets qu'on trouvait vraiment dans la société, que les gens portaient sur eux, se promenaient avec, donc ça fait quand même assez bizarre. Et puis en nouveauté, on va découvrir beaucoup plus d'incarnation en fait des personnages, des principaux protagonistes de l'affaire Dreyfus avec des portraits. On a aussi des dessins, des estampes qui vont montrer les caricatures à l'époque. Et puis, c'est pas un vrai objet puisque c'est un fac-similé, mais les visiteurs nous demandaient quand même très régulièrement comment est-ce qu'on pouvait mieux incarner Alfred Dreyfus. Et finalement, c'est par son uniforme, parce que le portrait qu'on connaît de lui, c'est vraiment lui avec son uniforme, son képi et ses lunettes. Et donc, du coup, on a demandé à une restauratrice textile, hein, qui s'occupe des collections textiles et qui est par ailleurs couturière, de refaire l'uniforme d'Alfred Dreyfus, puisqu'on n'en a pas trouvé dans les collections, pas exactement le régiment auquel il appartenait. Donc elle a travaillé avec une brodeur et un chapelier pour refaire l'uniforme. Et c'est vrai que ça va être une pièce quand même maîtresse de l'exposition, parce que c'est ce qu'il aurait pu porter, en fait.
Oui. Toute exposition a une histoire à rencontrer au public. Quelles sont les histoires que cette exposition veut transmettre au public?
Comme je disais tout à l'heure sur les principaux enjeux de l'exposition, je pense qu'on est vraiment là, en fait, c'est se rendre compte de ce qu'a été l'affaire, donc bien comprendre les enjeux. On a notamment, on rappelle la chronologie, hein, de façon très synthétique, très accessible, des faits avant le procès de Rennes, en fait, ce qui s'est passé, tous les rebondissements. On a envie vraiment que les publics aussi se plongent dans l'ambiance, en fait, de l'affaire de Rennes à l'époque. Donc on a un dispositif de diaporama où on passe des vues de Rennes à l'époque. On a des grands aplats, enfin des wallpapers, pareil avec des rues de Rennes. Donc l'idée, c'est vraiment aussi de se rendre compte de ce que pouvait être l'ambiance de Rennes à l'époque. Et puis on a envie de raconter le procès de Rennes. Donc là, on a fait appel un réalisateur, Pierre-François Lebrun, qui a réalisé donc un film à peu près de 25 minutes où il raconte jour par jour ce qui s'est passé pendant ses audiences dans le lycée Émile Zola.
J'ai vu qu'il y a d'autres événements qui sont prévus pour l'inauguration avant de cet événement.
Oui.
Quelques mots, vous pouvez dire quelque chose?
Oui, donc le 20 juin, on va accueillir le Conservatoire de Rennes, donc des élèves, hein, qui vont interpréter des pièces de compositeurs de l'époque de Dreyfus, qui étaient des compositeurs qui ont apporté leur soutien à Dreyfus. Donc là, on a deux interventions, deux concerts de 30 minutes dans l'après-midi. On a aussi André Hélard, hein, qui est un historien spécialiste de l'affaire Dreyfus à Rennes, qui viendra expliquer pourquoi est-ce que la section rennaise de la Ligue des droits de l'homme est née au moment de l'affaire Dreyfus. Et puis dans l'exposition, on aura des visites courtes autour d'un objet, d'une partie. Et puis les amis du musée de Bretagne qui vont lire des lettres, donc de la correspondance entre Lucie et Alfred Dreyfus pendant la détention d'Alfred Dreyfus. Et puis des lettres de soutien, parce qu'il faut savoir que Lucie et Alfred Dreyfus ont reçu des lettres de soutien du monde entier. On en conserve plus de 3000, hein, dans les collections. Ces lettres qui ont été données par la famille Dreyfus. Et du coup, voilà, ils vont aussi lire ces lettres-là, et ça permet en fait de comprendre toute l'émotion qui a pu s'emparer de personnes à l'époque. Et puis deux jours avant, mercredi 17 à 18h à l'auditorium des Champs Libres, donc c'est entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles, on valorise le projet Rejouer Dreyfus. Donc c'est des élèves du lycée Zola. Une metteuse en scène et puis des avocats de l'ordre des avocats qui ont rejoint une pièce de théâtre qui avait été écrite il y a 30 ans par un enseignant du lycée Émile Zola, donc ils l'ont remontée et ils l'ont jouée en mars donc dans la salle hein, du procès Dreyfus et cette pièce elle a été captée par TVRN et France 3 enfin ici Bretagne, et donc du coup l'idée de cette soirée là c'est de projeter en fait la captation de la pièce et puis en avant-première de diffuser un reportage qui a été réalisé par Ouest France où on suit les coulisses de ce projet et comment est-ce que ça a impacté les élèves en fait sur leur parcours d'élèves, de citoyens, de participer à la reconstitution de cette pièce.
Bon, merci pour votre présence et pour les informations que vous nous avez communiquées. Nous comptons donc sur votre présence, le public, en aussi grand nombre que possible pour voir une exposition extraordinaire au Champ Libre à partir de samedi 20 juin.
Oui, et je précise que c'est une exposition permanente, donc elle va rester là pour plusieurs années et qu'elle est gratuite.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
C'est l'heure de la chronique de Cesse. Bienvenue dans la sauce, la chronique culinaire aussi gourmande que consciente. Ça va, Cesse ?
Ça va. L'an dernier, je vous avais proposé dans cette chronique des stratégies pour cuisiner en été avec tout un tas de recettes ou de techniques qui vont limiter la production de chaleur lors de la préparation culinaire. Parce que bon, c'est super les petits plats mijotés. Mais si c'est pour les assaisonner avec sa sueur, merci, mais non merci.
J'approuve.
J'ignore comment vos apparts sont isolés chez vous, ou si vous avez un traitement anxiolytique qui vous rend particulièrement sensible et fragile quand le soleil nous darde de ses rayons. Mais moi, la semaine de la vague de chaleur, j'en menais vraiment pas large. L'idée même d'utiliser une bouilloire ou une casserole me mettait mal. Pour vous dire la vérité, j'étais à deux doigts de faire un tableau comparatif sur le ratio bénéfice-inconvénient entre mourir de faim ou mourir de chaleur.
Sacrée semaine.
Dur, dur. Alors imaginez deux secondes le dilemme qui se pose pour les personnes handicapées qui, déjà quand l'air est frais, attendent que la MDPH daigne répondre à leurs demandes d'aménagement pour rendre leurs conditions de vie viables et qui, maintenant que les températures montent, ont droit à une super loi pour mourir dignement dans un délai record. Donc bon, je me suis dit, cesse, reprends-toi, on va plutôt voir comment manger dignement. Parce que pour faire la lutte, c'est cool d'avoir un peu de nutriments et de carburant. J'ai donc fait du taboulé. Et c'est ainsi que je m'en vais vous expliquer en quoi il sera votre meilleur allié pour l'été.
Dis-nous tout.
Déjà, la semoule n'a besoin que d'eau pour s'hydrater, gonfler et devenir toute fluffy et douce sous la dent. La chaleur, ça sert que d'accélérateur. Mais si vous lui laissez le temps, l'eau froide suffira amplement. Premier bon point. En plus, si vous coupez en dés votre concombre et vos tomates, avec un petit coup de jus de citron, zeste avec, que vous ajoutez le tout dans un saladier qui ira dormir au frigo avant que vienne le temps de la dégustation, la semoule va se gorger du jus de votre garniture et n'en sera que plus gourmande. Même logique si vous ajoutez une ciselade de vos herbes préférées. Menthe, basilic, persil, ciboulette, à vous de faire votre petite sélection. Et pour finir, ma petite astuce personnelle, gardez de la tomate fraîche à ajouter au dernier moment. En effet, le froid va tuer un petit peu le goût de nos belles tomates, donc en ajouter à la dernière minute va compenser cette perte et rehausser le goût tomaté. Et pour ne pas se lasser, le taboulé peut se décliner à l'infini. Déjà, on peut s'amuser à changer les légumes. Melon de toutes les couleurs. Genre, j'ai découvert le melon blanc l'autre jour, mais c'est une dinguerie ce truc. Et pourquoi pas un petit fenouil par ici, une orange par là. J'ai même eu une pote qui, pas plus tard qu'aujourd'hui, m'a envoyé un taboulé aux pêches et aux fraises. Après, on peut s'amuser avec les condiments. Une pluie d'olive verte ou noire, une feta émiettée, une poignée de graines de tournesol. Laissez libre cours à vos envies. Et enfin, on peut apporter un peu de protéines pour un plat un peu plus consistant, comme des pois chiches en conserve qu'on aura juste à rincer, ou un tofu fumé à tailler en dés. Alors c'est pas juste pour faire de la propagande végé, hein, c'est juste que je garde en tête mon objectif zéro cuisson pour un savoureux gueuleton.
Ça a plus rien vraiment d'un taboulé ton affaire là, Cesse, j'ai l'impression.
Peut-être, mais tu sais ce qu'on dit, Héloïse. La fin, FIM, justifie les moyens.
Oh, elle est belle, celle-là. Merci beaucoup, Sass. C'était ta dernière chronique dans la sauce de l'année, il me semble.
Il n'y en a pas une lundi 22 ?
Ah, peut-être. J'ai mis une fake news. Merci, Sass. À la prochaine, alors. On écoute, on regarde si on a un message sur le répondeur.
Ah, le téléphone.
Allô ?
Allô ? Syllab, la radio sauvage.
Il n'y a pas de message ce soir.
Ah non,
soir.
Je crois qu'il y a un message, tu feras gaffe. Attends. Bip-bip. Je crois qu'on a quelque chose à te dire avec Aïsa.
Je vous écoute.
Alors, pour les auditoristes qui ne savent pas, nous, on part avec Aïsa. On a été là pour moi 2 mois et
déjà.
Aïsa 1 mois. Ouais, déjà, c'est passé super vite. Ouais. Et on voulait te dire un grand merci devant tout le monde. Héloïse, tu as été une super tutrice. On a progressé. Ce qu'il faut savoir, c'est que derrière toutes les émissions, on a des retours toujours hyper bienveillants. Et voilà, juste merci.
Merci à Louise.
Merci à vous, les stagiaires.
Pour tes petits conseils et tout, c'était trop bien.
Gros cœur sur vous.
Merci, ça me fait très plaisir. Vous allez me manquer, mais vous savez, vous pouvez revenir quand vous voulez.
Bah, on se verra peut-être la semaine prochaine.
Ah, who knows. Merci les girls. Bon, c'est un message vocal en live, mais vous pouvez en envoyer... plus traditionnellement, sur un répondeur au numéro 02 30 96 25 35. Voilà. Si vous avez des retours sur le travail d'Aïsa et Léonore, qui ont fait du super taf. Là,
celui d'Héloïse, qui anime super bien son émission.
N'hésitez pas, envoyez tout le love sur le 02 30 96 25 35. À la technique ce soir, c'était Timour. Merci à toi.
Merci.
À lundi, dans 6 heures avant minuit.
La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben il est 6h.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6h avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6h avant minuit. 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.